Chapitre 2. Le bon naturel de ces enfants se développait de jour en jour. Un dimanche au lever de l'aurore, leur mère étant allée à la première messe à l'église des Pamplemousses, une négresse marronne se présenta sous les bananiers qui entouraient leur habitation. Elle était décharnée comme un squelette et n'avait pour vêtement qu'un lambeau de serpillière autour des reins. Elle se jeta aux pieds de Virginie, qui préparait le déjeuner de la famille, et lui dit « Ma jeune demoiselle, ayez pitié d'une pauvre esclave fugitive. Il y a un mois que j'entre dans ces montagnes demi-morte de faim, souvent poursuivie par des chasseurs et par leurs chiens. Je fuis mon maître, qui est un riche habitant de la rivière Noire. Il m'a traité, comme vous le voyez. » Et en même temps, elle lui montra son corps, sillonné de cicatrices profondes par les coups de fouet qu'elle avait reçus. Elle ajouta, « Je voulais aller me noyer, mais sachant que vous demeuriez ici, j'ai dit, puisqu'il y a encore de bons blancs dans ce pays, il ne faudra pas encore mourir. » Virginie, tout émue, lui répondit, « Rassurez-vous, infortunée créature, mangez, mangez !» Et elle lui donna le déjeuner de la maison qu'elle avait apprêté. L'esclave, en peu de moments, le dévora tout entier. Virginie, la voyant rassasiée, lui dit, « Pauvre misérable, j'ai envie d'aller demander grâce à votre maître. En vous voyant, il sera touché de pitié. Voulez-vous me conduire chez lui ?»« Ange de Dieu, repartit la négresse, je vous suivrai partout où vous voudrez. » Virginie appela son frère et le pria de l'accompagner. L'esclave marronne les conduisit par des sentiers, au milieu des bois, à travers de hautes montagnes qu'ils grimpèrent avec bien de la peine et de larges rivières qu'ils passèrent à gué. Enfin, vers le milieu du jour, ils arrivèrent au bas d'un morne sur les bords de la rivière Noire. Ils aperçurent là une maison bien bâtie, des plantations considérables et un grand nombre d'esclaves occupés à toutes sortes de travaux. Leur maître se promenait au milieu d'eux, une pipe à la bouche et un rotin à la main. C'était un grand homme sec, aux yeux enfoncés et aux sourcils noirs et joints. Virginie, tout émue, menant Paul par le bras, s'approcha de l'habitant et le pria, pour l'amour de Dieu, de pardonner à son esclave qui était à quelques pas de là derrière eux. D'abord, l'habitant ne fit pas grand compte de ses deux enfants pauvrement vêtus, mais quand il eut remarqué la taille élégante de Virginie, sa belle tête blonde sous une capote bleue, et qu'il eut entendu le doux son de sa voix, qui tremblait ainsi que tout son corps en lui demandant grâce, il ôta sa pipe de sa bouche, et levant son rotin vers le ciel, il jura par un affreux serment qu'il pardonnait à son esclave, non pas pour l'amour de Dieu, mais pour l'amour d'elle. Virginie aussitôt fit signe à l'esclave de s'avancer vers son maître, puis elle s'enfuit et Paul courut après elle. Ils remontèrent ensemble le revers du morne par où ils étaient descendus, et parvenus au sommet, ils s'assirent sous un arbre, accablés de lassitude, de faim et de soif. Ils avaient fait à jeun plus de 5 lieues depuis le lever du soleil. Paul dit à Virginie, « Ma sœur, il n'est plus de midi. Tu as faim et soif? Nous ne trouverons point ici à dîner. Redescendons le morne et allons demander à manger au maître de l'esclave. » « Oh non, mon ami, reprit Virginie, il m'a fait trop peur. Souviens-toi, de ce que dit quelquefois maman. Le pain du méchant remplit la bouche de gravier. Ben, comment ferons-nous donc, dit Paul? Ces arbres ne produisent que de mauvais fruits. Il n'y a pas seulement ici un tamarin ou un citron pour te rafraîchir. Dieu aura pitié de nous, reprit Virginie. Il exauce la voix des petits oiseaux qui lui demandent de la nourriture. À peine avait-elle dit ces mots qu'ils entendirent le bruit d'une source qui tombait d'un rocher voisin. Ils y coururent, et après s'être désaltérés avec ces eaux plus claires que le cristal, ils cueillirent et mangèrent un peu de cresson qui croissait sur ses bords. Comme ils regardaient de côté et d'autre s'ils ne trouveraient pas quelque nourriture plus solide, Virginie aperçut parmi les arbres de la forêt un jeune palmiste. Le chou que la cime de cet arbre renferme au milieu de ses feuilles est un fort bon manger, mais quoique sa tige ne fût pas plus grosse que la jambe, elle avait plus de 60 pieds de hauteur. À la vérité, le bois de cet arbre n'est formé que d'un paquet de filaments, mais son aubier est si dur qu'il fait rebrousser les meilleures haches. Et Paul n'avait pas même un couteau. L'idée lui vint de mettre le feu au pied de ce palmiste. Autre embarras, il n'avait point de briquet. Et d'ailleurs, dans cette île si couverte de rochers, je ne crois pas qu'on puisse trouver une seule pierre à fusil. La nécessité donne de l'industrie, et souvent les inventions les plus utiles ont été dues aux hommes les plus misérables. Paul résolut d'allumer du feu à la manière des Noirs. Avec l'angle d'une pierre, il fit un petit trou sur une branche d'arbre bien sèche, qu'il assujettit sous ses pieds, puis, avec le tranchant de cette pierre, il fit une pointe à un autre morceau de branche également sèche, mais d'une espèce de bois différent. Il posa ensuite ce morceau de bois pointu dans le petit trou de la branche qui était sous ses pieds, et le faisant rouler rapidement entre ses mains, comme on roule un moulinet dont on veut faire mousser du chocolat, en peu de moments, il vit sortir du point de contact de la fumée des étincelles. Il ramassa des herbes sèches et d'autres branches d'arbres, et mit le feu au pied du palmiste, qui bientôt après tomba avec un grand fracas. Le feu lui servit encore à dépouiller le chou de l'enveloppe de ses longues feuilles, ligneuses et piquantes. Virginie et lui mangèrent une partie de ce chou cru et l'autre cuite sous la cendre, et ils le trouvèrent également savoureuse. Ils firent ce repas frugal, rempli de joie par le souvenir de la bonne action qu'ils avaient faite le matin. Mais cette joie était troublée par l'inquiétude où ils se doutaient, bien que leur longue absence de la maison jetterait leur mère. Virginie revenait souvent sur cet objet. Cependant, Paul, qui sentait ses forces rétablies, l'assura qu'il ne tarderait pas à tranquilliser leurs parents. Après dîner, ils se trouvèrent bien embarrassés, car ils n'avaient plus de guide pour les reconduire chez eux. Paul, qui ne s'étonnait de rien, dit à Virginie « Notre case est vers le soleil du milieu du jour. Il faut que nous passions, comme ce matin, par-dessus cette montagne que tu vois là-bas avec ces trois pitons. Allons, marchons, mon bon ami. » Cette montagne était celle des trois mamelles, ainsi nommée parce que ces trois pitons en ont la forme. Ils descendirent donc le morne de la rivière Noire, du côté du nord, et arrivèrent après une heure de marche sur les bords d'une large rivière qui barrait leur chemin. Cette grande partie de l'île, toute couverte de forêts, est si peu connue même aujourd'hui que plusieurs de ces rivières et de ces montagnes n'y ont pas encore de nom. La rivière sur le bord de laquelle ils étaient coulés en Non. je reprends à cette grande partie de l'île. Cette grande partie de l'île, toute couverte de forêts, est si peu connue même aujourd'hui que plusieurs de ses rivières et de ses montagnes n'y ont pas encore de nom. La rivière sur le bord de laquelle ils étaient coule en bouillonnant sur un lit de rochers. Le bruit de ses eaux effraya Virginie. Elle n'osa y mettre les pieds pour la passer à gué. Paul alors prit Virginie sur son dos et passa ainsi, chargé sur les roches glissantes de la rivière, malgré le tumulte de ses eaux. « N'aie pas peur, lui disait-il. Je me sens bien fort avec toi. Si l'habitant de la rivière Noire t'avait refusé la grâce de son esclave, je me serais battu avec lui. »« Comment ? » dit Virginie, « avec cet homme si grand et si méchant ? À quoi t'ai-je exposé ? Mon Dieu, qu'il est difficile de faire le bien. Il n'y a que le mal de facile à faire. » Quand Paul fut sur le rivage, il voulut continuer sa route chargée de sa sœur, et il se flattait de monter ainsi la montagne des trois mamelles qu'il voyait devant lui à une demi-lieue de là. Mais bientôt les forces lui manquèrent, et il fut obligé de la mettre à terre et de se reposer auprès d'elle. Virginie lui dit alors, « Mon frère, le jour baisse. Tu as encore des forces et les miennes me manquent. Laisse-moi ici et retourne seul à notre case pour tranquilliser nos mères. »« Oh non, dit Paul, je ne te quitterai pas. Si la nuit nous surprend dans ces bois, j'allumerai du feu, j'abattrai un palmiste, tu en mangeras le chou et je ferai avec ses feuilles un ajoupa pour te mettre à l'abri. » Cependant Virginie, s'étant un peu reposée, cueillit sur le tronc d'un vieil arbre penché sur le bord de la rivière de longues feuilles de scolopendre qui pendaient de son tronc. Elle en fit des espèces de brodequins dont elle s'entoura les pieds et que les pierres des chemins avaient mis en sang. Car, dans l'empressement d'être utile, elle avait oublié de se chausser. Se sentant soulagée par la fraîcheur de ses feuilles, elle rompit une branche de bambou et se mit en marche en s'appuyant d'une main sur ce roseau et de l'autre sur son frère. Ils cheminaient ainsi doucement à travers les bois, mais la hauteur des arbres et l'épaisseur de leur feuillage leur firent bientôt perdre de vue la montagne des trois mamelles sur laquelle ils se dirigeaient et même le soleil qui était déjà près de se coucher. Au bout de quelque temps, ils quittèrent, sans s'en apercevoir, le sentier frayé dans lequel ils avaient marché jusqu'alors, et ils se trouvèrent dans un labyrinthe d'arbres, de lianes et de roches qui n'avaient plus d'issue. Paul fit asseoir Virginie et se mit à courir çà et là, tout hors de lui, pour chercher un chemin hors de ce fourré épais. Mais il se fatigua en vain. Il monta au haut d'un grand arbre pour découvrir au moins la montagne des trois mamelles, mais il n'aperçut autour de lui que les cimes des arbres, dont quelques-unes étaient éclairées par les derniers rayons du soleil couchant. Cependant, l'ombre des montagnes couvrait déjà les forêts dans les vallées. Le vent se calmait, comme il arrive au coucher du soleil. Un profond silence régnait dans ces solitudes, et on y entendait d'autres bruits que le bramement des cerfs qui venaient chercher leur gîte dans ces lieux écartés. Paul, dans l'espoir que quelques chasseurs pourraient l'entendre, cria alors de toute sa force « Venez, venez au secours de Virginie !» Mais les seuls échos de la forêt répondirent à sa voix et répétèrent à plusieurs reprises « Virginie, Virginie !» Paul descendit alors de l'arbre accablé de fatigue et de chagrin. Il chercha les moyens de passer la nuit dans ce lieu, mais il n'y avait ni fontaine, ni palmiste, ni même de branches de bois sec propres à allumer du feu. Il sentit alors, par son expérience, toute la faiblesse de ses ressources, et il se mit à pleurer. Virginie lui dit, « Ne pleure point, mon ami, si tu ne veux m'accabler de chagrin. C'est moi qui suis la cause de toutes tes peines et de celles qu'éprouvent maintenant nos mères. Il ne faut rien faire, pas même le bien, sans consulter ses parents. Oh, j'ai été bien imprudente. » Et elle se prit à verser des larmes. Cependant, elle dit à Paul, « Prions Dieu, mon frère, et il aura pitié de nous. » À peine avaient-ils achevé leur prière, qu'ils entendirent un chien aboyer. « Oh, c'est, dit Paul, le chien de quelque chasseur, qui vient le soir tuer des cerfs à l'affût. » Peu après, les aboiements du chien redoublèrent. « Il me semble, dit Virginie, que c'est fidèle, le chien de notre case. Oh oui, oh, je reconnais sa voix. Serions-nous si près d'arriver et au pied de notre montagne ?» En effet, un moment après, Fidèle était à leurs pieds, aboyant, hurlant, gémissant et les accablant de caresses. Comme ils ne pouvaient revenir de leur surprise, ils aperçurent Domingue qui accourait à eux. À l'arrivée de ce bon noir qui pleurait de joie, ils se mirent aussitôt à pleurer, sans pouvoir lui dire un mot. Quand Domingue eut repris ses sens, « Oh, mes jeunes maîtres, leur dit-il, que vos mères ont d'inquiétude, comme elles ont été étonnées quand elles ne vous ont plus trouvé au retour de la messe où je les accompagnais. Marie, qui travaillait dans un coin de l'habitation, n'a su nous dire où vous étiez allés. J'allais, je venais autour de l'habitation, ne sachant moi-même de quel côté vous cherchez. Enfin, j'ai pris nos vieux habits à l'un et à l'autre, je les ai fait flairer à Fidèle, et sur le champ, comme si ce pauvre animal m'eût bien entendu, il s'est mis à quêter sur vos pas. Il m'a conduit, toujours en remuant la queue, jusqu'à la rivière Noire. C'est là où j'ai appris d'un habitant que vous lui aviez ramené une négresse marronne et qu'il vous avait accordé sa grâce. Mais quelle grâce! Il me l'a montré attaché, avec une chaîne aux pieds, un billot de bois, et avec un collier de fer à trois crochets autour du cou. De là, Fidèle, toujours quêtant, m'a mené sur le morne de la rivière Noire, où il s'est arrêté encore en aboyant de toute sa force. C'était sur le bord d'une source, auprès d'un palmiste abattu, près d'un feu qui fumait encore. Enfin, il m'a conduit ici. Nous sommes au pied de la montagne des Trois Mamelles, et il y a encore 4 bonnes lieues jusque chez nous. Allons, mangez, et prenez des forces. » Il leur présenta aussitôt un gâteau, des fruits, et une grande calebasse remplie d'une liqueur composée d'eau de vin, de jus de citron, de sucre et de muscade, que leur mère avait préparé pour les fortifier et les rafraîchir. Virginie soupira au souvenir de la pauvre esclave et des inquiétudes de leur mère. Elle répéta plusieurs fois, « Oh, qu'il est difficile de faire le bien !» Pendant que Paul et elle se rafraîchissaient, Domingue alluma du feu, ayant cherché dans les rochers un bois tortu qu'on appelle bois de ronde et qui brûle tout vert en jetant une grande flamme, il en fit un flambeau qu'il alluma, car il était déjà nuit. Mais il éprouva un embarras bien plus grand quand il fallut se mettre en route. Paul et Virginie ne pouvaient plus marcher. Leurs pieds étaient enflés et tout rouges. Domingue ne savait s'ils devaient aller bien loin de là leur chercher du secours, ou passer dans ce lieu la nuit avec eux. Oh, où est le temps, leur disait-il, où je vous portais tous deux à la fois dans mes bras? Mais maintenant, vous êtes grands et je suis vieux. Comme il était dans cette perplexité, une troupe de noirs marrons se fit voir à 20 pas de là. Le chef de cette troupe, s'approchant de Paul et de Virginie, leur dit « Bon, petit blanc, n'ayez pas peur. Nous vous avons vu passer ce matin avec une négresse de la rivière Noire. Vous alliez demander sa grâce à son mauvais maître. En reconnaissance, nous vous reporterons chez vous, sur nos épaules. » Alors il fit un signe, et 4 noirs marrons, des plus robustes, firent aussitôt un brancard avec des branches d'arbres et des lianes, y placèrent Paul et Virginie, les mirent sur leurs épaules. Et Domingue marchant devant eux avec son flambeau, ils se mirent en route aux cris de joie de toute la troupe qui les comblait de bénédictions. Virginie, attendrie, disait à Paul, « Oh, mon ami, jamais Dieu ne laisse un bienfait sans récompense. » Ils arrivèrent vers le milieu de la nuit, au pied de leur montagne, dont les croupes étaient éclairées de plusieurs feux. À peine ils la montaient qu'ils entendirent des voix qui criaient. « Est-ce vous, mes enfants ? » ils répondirent avec les noirs. « Oui, c'est nous !» Et bientôt ils aperçurent leur mère et Marie qui venaient au-devant eux avec des tisons flambants. « Malheureux enfant ! » dit Madame de la Tour. D'où venez-vous? Oh, dans quelles angoisses vous nous avez jetés! Nous venons, dit Virginie, de la rivière Noire, demander la grâce d'une pauvre esclave marronne, à qui j'ai donné ce matin le déjeuner de la maison parce qu'elle mourait de faim. Et voilà que les noirs marrons nous ont ramenés. Madame de la Tour embrassa sa fille sans pouvoir parler. Et Virginie, qui sentit son visage mouillé des larmes de sa mère, lui dit « Oh, vous me payez de tout le mal que j'ai souffert. » Marguerite, ravie de joie, serrait Paul dans ses bras et lui disait « Et toi aussi, mon fils, tu as fait une bonne action. » Quand elles furent arrivées dans leur case avec leurs enfants, elles donnèrent bien à manger aux noirs marrons, ils s'en retournèrent dans les bois en leur souhaitant toutes sortes de prospérités. Chaque jour était pour ces familles un jour de bonheur et de paix. Ni l'envie ni l'ambition ne les tourmentaient. Elles ne désiraient point au dehors une vaine réputation que donne l'intrigue et qu'ôte la calomnie. Il leur suffisait d'être à elles-mêmes leurs témoins et leurs juges. Dans cette île, où, comme dans toutes les colonies européennes, on est curieux que d'anecdotes malignes, leurs vertus et même leurs noms étaient ignorés. Seulement quand un passant demandait sur le chemin des pamplemousses à quelques habitants de la plaine « Qui est-ce qui demeure là-haut dans ces petites cases ?» Ceux-ci répondaient, sans les connaître, oh, ce sont de bonnes gens. Ainsi des violettes sous des buissons épineux exhalent au loin leur doux parfum, quoiqu'on ne les voie pas. Elles avaient banni de leur conversation la médisance, qui, sous une apparence de justice, dispose nécessairement le cœur à la haine ou à la fausseté. Car il est impossible de ne pas haïr les hommes si on les croit méchants et de vivre avec les méchants si on ne leur cache sa haine sous de fausses apparences de bienveillance. Ainsi, la médisance nous oblige d'être mal avec les autres ou avec nous-mêmes. Mais sans juger des hommes en particulier, elle ne s'entretenait que des moyens de faire du bien à tous en général, et quoiqu'elle n'en eussent pas le pouvoir, elles en avaient une volonté perpétuelle qui les remplissait d'une bienveillance toujours prête à s'étendre au dehors. En vivant donc dans la solitude, loin d'être sauvages, elles étaient devenues plus humaines. Si l'histoire scandaleuse de la société ne fournissait point de matière à leur conversation, celle de la nature les remplissait de ravissement et de joie. Elles admiraient avec transport le pouvoir d'une providence qui, par leurs mains, avait répandu au milieu de ces arides rochers l'abondance, les grâces, les plaisirs purs, simples et toujours renaissants. Paul, à l'âge de 12 ans, plus robuste et plus intelligent que les Européens à 15, avait embelli ce que le noir de Domingue ne faisait que cultiver. Il allait avec lui dans les bois voisins, déracinés de jeunes plants de citronniers, d'orangers, de tamarins, dont la tête ronde est d'un si beau vert, et dattiers dont le fruit est plein d'une crème sucrée qui a le parfum de la fleur d'orange. Il plantait ses arbres déjà grands autour de cette enceinte. Il y avait semé des graines d'arbres qui, dès la seconde année, portent des fleurs ou des fruits, tels que l'agathis, où pendent tout autour, comme les cristaux d'un lustre, de longues grappes de fleurs blanches, le lilas de Perse, qui élève droit en l'air ses girandoles gris de lin, le papaïen, dont le tronc sans branches forme en colonne hérissée de melons verts, porte un chapiteau de larges feuilles semblables à celles du figuier. Il y avait planté encore des pépins et des noyaux de badamier, de manguier, d'avocat, de goyavier, de jacques et de jamerose. La plupart de ces arbres donnaient déjà à leur jeune maître de l'ombrage et des fruits. Sa main laborieuse avait répandu la fécondité jusque dans les lieux les plus stériles de cet enclos. Diverses espèces d'aloès, la raquette chargée de fleurs jaunes fouettées de rouge, les cierges épineux, s'élevaient sur les têtes noires des roches et semblaient vouloir atteindre aux longues lianes chargées de fleurs bleues ou écarlates qui pendaient çà et là le long des escarpements de la montagne. Il avait disposé ces végétaux de manière qu'on pouvait jouir de leur vue d'un seul coup d'œil. Il avait planté au milieu de ce bassin les herbes qui s'élèvent peu à peu, ensuite les arbrisseaux, puis les arbres moyens et enfin les grands arbres qui en bordaient la circonférence. De sorte que ce vaste enclos paraissait de son centre comme un amphithéâtre de verdure, de fruits et de fleurs, renfermant des plantes potagères, des lisières de prairies et des champs de riz et de blé. Mais en assujettissant ces végétaux à son plan, il ne s'était pas écarté de celui de la nature. Guidé par ses indications, il avait mis dans les lieux élevés ceux dont les semences sont volatiles, et sur le bord des eaux, ceux dont les graines sont faites pour flotter. Ainsi, chaque végétal croissait dans son site propre, et chaque site recevait de son végétal sa parure naturelle. Les eaux qui descendent du sommet de ces roches formaient au fond du vallon, ici des fontaines, là de larges miroirs, qui répétaient au milieu de la verdure les arbres en fleurs, les rochers et l'azur des cieux. Malgré la grande irrégularité de ce terrain, toutes ces plantations étaient pour la plupart aussi accessibles au toucher qu'à la vue. À la vérité, nous l'aidions tous de nos conseils et de nos secours pour en venir à bout. Il avait pratiqué un sentier qui tournait autour de ce bassin et dont plusieurs rameaux venaient se rendre de la circonférence au centre. Il avait tiré parti des lieux les plus raboteux et accordé, par la plus heureuse harmonie, la facilité de la promenade avec l'aspérité du sol et les arbres domestiques avec les sauvages. de cette énorme quantité de pierres roulantes qui embarrassent maintenant ses chemins ainsi que la plupart du terrain de cette île, il avait formé çà et là des pyramides dans les assises desquelles il avait mêlé de la terre et des racines de rosiers, de poinciliades et d'autres arbrisseaux qui se plaisent dans les roches. En peu de temps, ces pyramides sombres et brutes furent couvertes de verdure ou de l'éclat des plus belles fleurs. Les ravins, bordés de vieux arbres inclinés sur les bords, formaient des souterrains voûtés, inaccessibles à la chaleur, où l'on allait prendre le frais pendant le jour. Un sentier conduisait dans un bosquet d'arbres sauvages, au centre duquel croissait, à l'abri des vents, un arbre domestique, chargé de fruits. Là était une moisson, ici un verger. Par cette avenue, on apercevait les maisons, par cette autre, les sommets inaccessibles de la montagne. Sous un bocage touffu de tatamaques, entrelacé de lianes, on ne distinguait en plein midi aucun objet. Sur la pointe de ce grand rocher voisin qui sort de la montagne, on découvrait tous ceux de cet enclos, avec la mer au loin, où apparaissait quelquefois un vaisseau qui venait de l'Europe ou qui y retournait. C'était sur ce rocher que ces familles se rassemblaient le soir et jouissaient en silence de la fraîcheur de l'air, du parfum des fleurs, du murmure des fontaines et des dernières harmonies de la lumière et des ombres. Rien n'était plus agréable que les noms donnés à la plupart des retraites charmantes de ce labyrinthe. Ce rocher dont je viens de vous parler, d'où l'on me voyait venir de bien loin, s'appelait « Découverte de l'amitié ». Paul et Virginie, dans leur jeu, y avaient planté un bambou, au haut duquel il s'élevait un petit mouchoir blanc pour signaler mon arrivée dès qu'il m'apercevait, ainsi qu'on élève un pavillon sur la montagne voisine, à la vue d'un vaisseau en mer. L'idée me vint de graver une inscription sur la tige de ce roseau. Quelque plaisir que j'ai eu dans mes voyages, à voir une statue ou un monument de l'Antiquité, j'en ai encore davantage à lire une inscription bien faite. Il me semble alors qu'une voix humaine sorte de la pierre, se fasse entendre à travers les siècles et s'adressant à l'homme au milieu des déserts, lui dise qu'il n'est pas seul et que d'autres hommes dans ces mêmes lieux ont senti, pensé et souffert comme lui, que si cette inscription est de quelque action ancienne qui ne subsiste plus, elle étend notre âme dans les champs de l'infini, et lui donne le sentiment de son immortalité en lui montrant qu'une pensée a survécu à la ruine même d'un empire. J'écrivis donc sur le petit mât de pavillon de Paul et Virginie ce vers d'Horace « Fratres Helenae lucida sidera, ventumque regat » Pater obstrictis aliis, praeter iapiga. Que les frères d'Hélène, astres charmants comme vous, et que le père des vents vous dirige et ne fasse souffler que le zéphyr. Je gravais ce vers de Virgile sur l'écorce d'un tatamac, à l'ombre duquel Paul s'asseyait quelquefois pour regarder au loin la mer agitée. Fortunatus et ille deos, qui novit agrestes. Heureux, mon fils, de ne connaître que les divinités champêtres. Et cet autre, au-dessus de la porte de la cabane de Madame de la Tour, qui était leur lieu d'assemblée, at secura quies, et nescia fallere vita. Ici est une bonne conscience et une vie qui ne s'est pas trompée. Mais Virginie n'approuvait point mon latin. Elle disait que ce que j'avais mis au pied de sa girouette était trop long et trop savant. J'eusse mieux aimé, ajoutait-elle, toujours agitée mais constante. Cette devise, lui répondis-je, conviendrait encore mieux à la vertu. Ma réflexion la fit rougir. Ces familles heureuses étendaient leurs âmes sensibles à tout ce qui les environnait. Elles avaient donné les noms les plus tendres aux objets en apparence les plus indifférents. Un cercle d'orangers, de bananiers et de jambes roses plantés autour d'une pelouse au milieu de laquelle Virginie et Paul allaient quelquefois danser se nommait la Concorde. Un vieux arbre, à l'ombre duquel Madame de la Tour et Marguerite s'étaient raconté leurs malheurs, s'appelait « Les pleurs essuyés ». Elle faisait porter les noms de Bretagne et de Normandie à de petites portions de terre où elles avaient semé du blé, des fraises et des pois. Domingue et Marie, désirant, à l'imitation de leur maîtresse, se rappelaient les lieux de leur naissance en Afrique, appelés Angola et Foulepointe, deux endroits où croissait l'herbe dont ils faisaient des paniers où ils avaient planté un calebassier. Ainsi, par ces productions de leur climat, ces familles expatriées entretenaient les douces illusions de leur pays et en calmaient les regrets dans une terre étrangère. Hélas! J'ai vu s'animer de mille appellations charmantes les arbres, les fontaines, les rochers de ce lieu maintenant si bouleversé et qui, semblable à un champ de la Grèce, n'offre plus que des ruines et des noms touchants. Mais de tout ce que renfermait cette enceinte, rien n'était plus agréable que ce qu'on appelait le repos de Virginie. Au milieu du rocher, la découverte de l'amitié est un enfoncement, nous sort une fontaine qui forme dès sa source une petite flaque d'eau au milieu d'un pré d'une herbe fine. Lorsque Marguerite eut mis Paul au monde, je lui fis présent d'un coco des Indes qu'on m'avait donné. Elle planta ce fruit sur le bord de cette flaque d'eau afin que l'arbre qu'il produirait servît un jour d'époque à la naissance de son fils. Madame de la Tour, à son exemple, y en planta un autre dans une semblable intention dès qu'elle eut accouché de Virginie. Il naquit de ces deux fruits deux cocotiers qui formaient toutes les archives de ces deux familles. L'un se nommait l'arbre de Paul et l'autre l'arbre de Virginie. Ils crurent tous deux, dans la même proportion que leur jeune maître, d'une hauteur un peu inégale, mais qui surpassaient au bout de 12 ans celle de leur cabane. Déjà, ils entrelaçaient leurs palmes et laissaient pendre leurs jeunes grappes de coco au-dessus du bassin de la fontaine. Excepté cette plantation, on avait laissé cet enfoncement du rocher tel que la nature l'avait orné. Sur ses flancs bruns et humides rayonnaient en étoiles vertes et noires de larges capillaires et flottaient au gré des vents des touffes de scolopendres suspendues comme de longs rubans d'un vert pourpré. Près de là croissaient des lisières de pervenche, dont les fleurs sont presque semblables à celles de la giroflée rouge, et des piments, dont les gousses couleur de sang sont plus éclatantes que le corail. Aux environs, l'herbe de baume, dont les feuilles sont en cœur et les basiliques à odeur de girofle, exhalaient les plus doux parfums. Du haut de l'escarpement de la montagne pendaient des lianes semblables à des draperies flottantes qui formaient sur les flancs des rochers de grandes courtines de verdure. Les oiseaux de mer, attirés par ces retraites paisibles, y venaient passer la nuit. Au coucher du soleil, On y voyait voler le long des rivages de la mer le corbeau et l'alouette marine, et au haut des airs la noire frégate avec l'oiseau blanc du tropique qui abandonnait, ainsi que l'astre du jour, les solitudes de l'océan Indien. Virginie aimait à se reposer sur les bords de cette fontaine décorée d'une pompe à la fois magnifique et sauvage. Souvent, elle y venait laver le linge de la famille à l'ombre des deux cocotiers. Quelquefois, elle y menait paître ses chèvres. Pendant qu'elle préparait des fromages avec leur lait, elle se plaisait à leur voir brouter les capillaires sur les flancs escarpés de la roche et se tenir en l'air sur une de ses corniches, comme sur un piédestal. Paul, voyant que ce lieu était aimé de Virginie, y apporta de la forêt voisine des nids de toutes sortes d'oiseaux. Les pères et les mères de ces oiseaux suivirent leurs petits et vinrent s'établir dans cette nouvelle colonie. Virginie leur distribuait de temps en temps des grains de riz, de maïs et de millet. Dès qu'elle paraissait, les merles siffleurs, les bengalis, dont le ramage est si doux, les cardinaux, dont le plumage est couleur de feu, quittaient leurs buissons. Des perruches vertes, comme des émeraudes, descendaient des blétaniers voisins, et des perdrix accouraient sous l'herbe. Tous s'avançaient pêle-mêle jusqu'à ses pieds, comme des poules. Paul et elle s'amusaient avec transport de leurs jeux, de leurs appétits et de leurs amours. Aimables enfants, vous passiez ainsi dans l'innocence au premier jour en vous exerçant au bienfait. Combien de fois dans ce lieu, vos mères, vous serrant dans leurs bras, bénissaient le ciel de la consolation que vous prépariez à leur vieillesse et de vous voir entrer dans la vie sous de si heureux auspices. Combien de fois, à l'ombre de ces rochers, ai-je partagé avec elles vos repas champêtres qui n'avaient coûté la vie à aucun animal. Des calebasses pleines de lait, des œufs frais, des gâteaux de riz sur des feuilles de bananier, des corbeilles chargées de patates, de mangues, d'oranges, de grenades, de bananes, de dattes, d'ananas, offraient à la fois les mets les plus sains, les couleurs les plus gaies et les sucs les plus agréables. La conversation était aussi douce et aussi innocente que ces festins. Paul y parlait souvent des travaux du jour et de ceux du lendemain. Il méditait toujours quelque chose d'utile pour la société. Ici, les sentiers n'étaient pas commodes. Là, on était mal assis. Ces jeunes berceaux ne donnaient pas assez d'ombrage. Virginie serait mieux là. Dans la saison pluvieuse, ils passaient le jour tous ensemble dans la case, maîtres et serviteurs, occupés à faire des nattes d'herbe et des paniers de bambou. On voyait, rangés dans le plus grand ordre, aux parois de la muraille, des râteaux, des haches, des bêches, et auprès de ces instruments de l'agriculture, les productions qui en étaient les fruits, des sacs de riz, des gerbes de blé et des régimes de bananes. La délicatesse y joignait toujours à l'abondance. Virginie, instruite par Marguerite et par sa mère, y préparait des sorbets et des cordiaux avec le jus des cannes à sucre, des citrons et des cédrats. La nuit venue, ils soupaient à la lueur d'une lampe. Ensuite, Madame de la Tour ou Marguerite racontait quelques histoires de voyageurs égarés la nuit dans les bois de l'Europe, infesté de voleurs, ou le naufrage de quelques vaisseaux jetés par la tempête sur les rochers d'une île déserte. À ces récits, les âmes sensibles de leurs enfants s'enflammaient. Ils priaient le ciel de leur faire la grâce d'exercer quelques jours l'hospitalité envers de semblables malheureux. Cependant, les deux familles se séparaient pour aller prendre du repos dans l'impatience de se revoir le lendemain. Quelquefois, elle s'endormait au bruit de la pluie qui tombaient par torrents sur la couverture de leurs cases, ou à celui des vents qui leur apportaient le murmure lointain des flots qui se brisaient sur le rivage. Elles bénissaient Dieu de leur sécurité personnelle, dont le sentiment redoublait par celui du danger éloigné. De temps en temps, Madame de la Tour lisait publiquement quelque histoire touchante de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il raisonnait peu sur ces livres sacrés, car leur théologie était tout en sentiments comme celle de la nature, et leur morale tout en actions comme celle de l'Évangile. Elle n'avait point de jour destiné au plaisir et d'autres à la tristesse. Chaque jour était pour eux un jour de fête et tout ce qui les environnait un temple divin où ils admiraient sans cesse une intelligence infinie, toute puissante et amie des hommes. Ce sentiment de confiance dans le pouvoir suprême les remplissait de consolation pour le passé et de courage pour le présent et d'espérance pour l'avenir. Voilà comme ces femmes, forcées par le malheur de rentrer dans la nature, avaient développé en elles-mêmes et dans leurs enfants ces sentiments que donne la nature pour nous empêcher de tomber dans le malheur. Mais comme il s'élève quelquefois dans l'âme la mieux réglée, des nuages qui la troublent, quand quelques membres de leur société paraissaient tristes, tous les autres se réunissaient autour de lui et l'enlevaient aux pensées amères, plus par des sentiments que par des réflexions, chacun y employait son caractère particulier. Marguerite, une gaieté vive, Madame de la Tour, une théologie douce, Virginie, des caresses tendres, Paul de la franchise, de la cordialité, Marie et Domingue même venaient à son secours. Il s'affligeait s'il le voyait affligé, et il pleurait s'il le voyait pleurer. Ainsi, des plantes faibles s'entrelacent ensemble pour résister aux ouragans.